Radio Kapi.
Oh, Kapi. 15h à Kinshasa, le journal Patience Ngalula.
Au sommaire de cette édition d'information, grogne au sein du pouvoir judiciaire en RDC, les bureaux du Conseil supérieur de la magistrature désapprouvent l'interdiction du transfèrement des détenus préventifs à la prison centrale de Makala et à la prison militaire d'Indolo par le ministère de la Justice. Des détails dans ce journal. La République démocratique du Congo attend sa première livraison des vaccins contre l'épidémie des Mpox ce jeudi. Entre-temps, dans les territoires de Beni, un cas de cette maladie a été confirmé le samedi 31 août dernier dans la zone de santé de Mutuanga. Notre invité est Patrick Moulet-Bois, chargé de l'éducation agricole au sein de la brigade de jeunes de l'Institut africain de leadership agricole à Ali. Il parle de la sensibilisation des jeunes afin de les pousser à opter pour l'enseignement agricole. Bonjour. Guéguerre relancée entre les conseils supérieurs de la magistrature et les ministères de la justice et garde des sceaux sur l'administration de la justice en RDC. Les bureaux du conseil supérieur de la magistrature désapprouvent l'interdiction du transfèrement des détenus préventifs à la prison centrale de Makala et à la prison militaire d'Indolo par le ministère de la justice, accusant les magistrats d'être à la base de la tentative d'évasion des prisonniers par le fait de la surpopulation. Population. Réunis hier soir, les bureaux du Conseil supérieur de la magistrature et cadre le vice-ministre de la Justice. Selon les conseils, la solution appropriée à la surpopulation carcérale tient à la fois à la construction de nouvelles prisons et maisons d'arrêt et à l'application stricte de la loi sur la détention ainsi que celle sur les régimes pénitentiaires. Le vice-président du Conseil supérieur de la magistrature et procureur général près la Cour constitutionnel Jean-Paul Mukolo.
Contrairement aux faits lors des sorties médiatiques du vice-ministre de la Justice et garde des Sceaux, les magistrats ne sont pas responsables de la tentative d'évasion qui a eu lieu à la prison de Makala. Certes, l'arrestation est l'exception, mais devant la hausse de la criminalité dans la ville, les arrestations et les détentions opérées par les magistrats constituent une réponse légale et idoine pour sécuriser la population. En effet, le suspect et toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction ou violé la loi pénale. Demander au magistrat de ne pas l'arrêter ni le transférer à la prison constitue une violation flagrante de la loi et surtout une autre manière d'installer au sein de la société congolaise les règles de vengeance privée et la loi du plus fort. Les déclarations du vice-ministre de la Justice, Edgar Dessault, sont de nature à exposer les magistrats à la vindicte populaire.
Rappelons que la déclaration du Conseil supérieur de la magistrature est consécutive à une note circulaire du vice-ministre de la Justice signée le 2 septembre relative à l'interdiction des transfèrements des détenus préventifs à Makala et Ndolo. Hier encore, le ministre de la Justice, fraîchement revenu de son itinérance en province, a effectué une visite surprise à la prison centrale de Makala tard dans la soirée et à nouveau avec colère, il a enfoncé les clous contre le magistrat promettant des sanctions contre, d'après lui, les saboteurs des actions du chef de l'État qui font sortir clandestinement des prisonniers de Makala. On l'écoute.
Je viens d'atterrir et croyez-moi, je règle cette affaire ici en 2 semaines maximum. J'ai alerté. Tous se sont constitués contre moi. Voilà les résultats. Ça, c'est un sabotage des actions du chef de l'État. Et ça ne se passera pas comme ça. Chaque semaine, les magistrats envoient des détenus ici à Makala, sans tenir compte de la capacité des cantonnements de ceux. Et ça, c'est injuste. Vous venez ici, vous faites sortir des gens clandestinement. Ça, c'est un acte de sabotage, c'est pas de l'évasion. De toutes les fois où moi, j'ai désengorgé, ils ont envoyé les doubles. C'est depuis que j'ai commencé, combien de détenus ont été envoyés ici, après le désengorgement. C'est là qu'on saura l'acte de sabotage d'où il est parti. Et on va sérieusement sanctionner.
C'est un dossier signé Jeff Ngoy. Et puis, la MONUSCO annonce sa disponibilité à apporter une assistance sanitaire et psychosociale aux prisonniers affectés après la tentative d'évasion dans la prison de Makala. Les femmes victimes des viols dans la prison centrale de Makala seront visées en urgence dans cette assistance de la MONUSCO. L'annonce a été faite par Madame Viviane Van de Peyre, représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies en RDC, chargée de la protection et des opérations. C'était à l'issue de la rencontre qu'elle a eue hier mercredi avec la première ministre Judith Suminwa. Elle le dit dans cet extrait sélectionné par Blaise Makassi.
Nous souhaitions exprimer nos sincères condoléances suite à ces événements tragiques. Nous sommes profondément attristés par la perte de vies humaines et par les blessures subies par les détenus. Nous avons offert notre assistance au gouvernement dans les limites moyens disponibles et sans préjudice des priorités identifiées par votre gouvernement, en coordination avec les agences, fonds et programmes des Nations Unies. C'est l'assistance assistance d'urgence comme assistance à la santé et soutien immédiat aux victimes et particulièrement les femmes comme des kits PEP de prévention des maladies. L'autre assistance peut être l'assistance psychosociale aux victimes des viols et nous avons aussi beaucoup d'experts en autres matières et nous avons tous offert au gouvernement pour assister avec cette matière très difficile.
Santé dans ce journal, je le disais au sommaire, la première livraison des vaccins contre l'épidémie de Mpox est attendue ce jeudi en République démocratique du Congo. Le pays qui est parmi les nations les plus touchées par les virus va recevoir au moins 200 000 doses cette semaine. Selon l'OMS, le gouvernement a prévu de commencer à déployer les vaccins dès le week-end. L'Organisation mondiale de la santé avait promis la semaine dernière une première livraison d'environ 230 000 doses du vaccin MVABN du laboratoire pharmaceutique danois Bavarian Nordic. Entre-temps, dans les territoires des Béni, un cas de la variole de singe ou monkeypox a été confirmé le samedi 31 août 2024 dans la zone de santé des Mutwanga. Nous sommes dans l'aire de santé des Kasindi Lubiria, à la frontière avec l'Ouganda, à environ 80 km de la ville des Béni. L'annonce a été faite ce jeudi par le médecin chef des zones de santé des Mutwanga, le docteur Germain Kamaliro. André Kitenge nous fait le point.
Il s'agit du premier cas positif de la variole des singes ou monkeypox dans le Grand Nord Kivu. Le 27 août dernier, deux échantillons prélevés sur des malades avaient été envoyés à l'Institut national de recherche biologique INRB à Kinshasa pour des analyses. Selon le docteur Germain Kamaliro, le médecin chef des zones de santé de Mutwanga, cette maladie contagieuse et dangereuse représente une menace pour la population de la ville de Beni et de ses environs. Afin de prévenir sa propagation, le programme national de l'hygiène aux frontières a renforcé depuis lundi des dispositifs sanitaires au poste frontalier de Kasindi-Lubiria. Tous les trafiquants et commerçants sont soumis au contrôle sévère et au lavage des mains avant toute traversée via le poste frontalier de Kasindi-Lubiria. Pour le moment, a indiqué le docteur Germain Kamaliro, la zone de santé de Mutwanga fait face à une carence en équipement de protection individuelle. Située à environ 90 km de la ville de Beni, la zone de Kasindi est parmi les plus importantes de la République démocratique du Congo. Elle est la voie d'exportation et d'importation de plusieurs marchandises. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Dans la même optique, à la première semaine de la rentrée scolaire, l'UNICEF sensibilise les écoles et les parents d'élèves contre l'épidémie des monkeypox. D'après Grant Leyeti, le représentant de l'UNICEF en RDC qui s'est confié hier à Radio Okapi, cette agence du système des Nations Unies se mobilise pour l'acquisition des vaccins contre cette maladie. Mais en attendant l'arrivée de ces vaccins, UNICEF recommande aux écoles et parents quelques mesures préventives pour protéger les élèves contre le Mpox et éviter sa propagation au sein des écoles. Grant Leyeti explique ces mesures au micro d'Askin Zigbiatayoro.
En termes de mesures, on sait que le Mpox, il y a une transmission qui se fasse entre enfants par contact physique. Donc, il est très important de d'abord assurer à ce qu'il y ait la distanciation entre les enfants quand ils sont dans la salle de classe d'abord. Deuxièmement, c'est très important qu'il y ait de l'eau et savon disponibles dans les écoles et on lave les mains régulièrement. Et après aussi, une fois à la fin de classe, C'est important de passer avec un chiffon pour nettoyer la surface, le banc et les bureaux utilisés par les enfants. On est en train de travailler avec les autorités sanitaires pour préparer des campagnes de vaccination. Dès que le vaccin arrive, la plupart des vaccins sont destinés pour les enfants. Il y en a aussi pour les adultes.
Dans la province du Congo central, la 7e édition du Forum national de chefs des divisions et des ministres provinciaux du genre de la RDC s'est clôturée mercredi 4 septembre à Matadi par une série de 28 recommandations. Dans son mot de clôture, le gouverneur des provinces, Grace Bilolo, a appelé les femmes à plus de compétitivité et a rappelé que leur promotion ne devrait pas être considérée comme un cadeau, mais qu'elle devrait découler du mérite. Suivez cet extrait de son discours choisi par Karine Topé Ridassi.
Je tiens à joindre ma voix à la vôtre pour considérer que la promotion de la femme n'est pas un cadeau. À ce sujet, j'invite toutes les femmes à la compétitivité et à l'excellence sans complexe, c'est dans tous les domaines de la vie. Une femme compétitive est un trésor, un ferment de développement. Je reste persuadé que ce forum a largement renforcé les capacités de la femme congolaise à viser plus haut et plus loin. Il ne me reste plus qu'à souhaiter qu'au sorti de ce forum, la République démocratique du Congo ait plus de femmes actives que passives.
Direction la ville de Kalemie dans la province du Tanganyika où l'école de formation de la police est désormais opérationnelle. 150 éléments de la police suivent la formation de 6 mois sur la police de proximité. Les travaux pour la construction de cette école de la police ont été exécutés par l'OIM sous les financements du gouvernement japonais à travers l'Agence japonaise de coopération internationale. Reportage de Paulin Munanga qui a visité cette école ce mercredi.
Située à quelques kilomètres de la ville de Kalemie dans le quartier Joseph Kabila, l'école de formation de la police qui comprend plusieurs bâtiments modernes est construite sur une étendue de 10 hectares. Elle a une capacité d'accueil de 600 policiers. L'école comprend 4 dortoirs avec chacun 37 lits superposés et des douches et toilettes internes, un réfectoire, 6 salles de classe, un centre de santé, un forage avec un château d'eau d'une capacité de 20 000 litres. Sur place, 150 policiers venus de la ville de Kalemie, des territoires de Nyunzu et Kongolo suivent la formation sur la police de proximité. Mélanie Munga et Michel Kitenge, deux policiers en formation, expliquent ce qu'ils apprennent au sujet de la police de proximité.
Nous sommes censés garder la population et leur bien. On nous enseigne la manière dont nous allons nous comporter devant les civils. Pas de brutalité, pas d'injures, pas de traitements inhumains.
La police de proximité, c'est la police qui reste tout près de la population. Et nous étudions éthique et déontologie policière dans la police de proximité. Éthique, c'est la façon de bien se comporter devant la population.
Signalons que c'est la toute première école de formation de la police construite dans la province du Tanganyika. Kalemie, Paulin Munanga, Radio Okapi.
Sport, avant de clôturer, les Léopards de la RDC débutent la campagne des qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 ce vendredi face au Sili National de la Guinée. Pour cette première journée, les deux nations affichent les ambitions de gagner pour mieux s'élancer dans la course. Cet avant-midi, les sélectionneurs de la RDC et de la Guinée étaient en conférence de presse d'avant-match au stade des Martyrs. Vanessa Kongolo était sur place, voici son reportage.
Pour débuter la campagne de qualification à la CAN Maroc 2025 à domicile, Sébastien Desarbres compte sur la motivation de ses joueurs, mais aussi sur l'appui du public.
On a fait 5 séances d'entraînement, ce sera la 5e séance tout à l'heure. C'est du bonheur d'entraîner ces joueurs-là. Vous savez, la motivation et ce que représente le pays pour eux, c'est fantastique. Et nous, ce qu'on veut, c'est faire plaisir à nos supporters, qu'ils nous encouragent vendredi, que le stade soit plein comme il était contre le Togo et qu'on donne de la joie à nos supporters. C'est ça notre première chose à réaliser demain.
Prendre la revanche sur les Léopards après la dernière CAN et faire le meilleur résultat possible, c'est l'objectif des Sili National selon Charles Paqui, sélectionneur de la Guinée.
Bien sûr, une très bonne dynamique et même les résultats précédents. Maintenant, on est là avec nos armes. avec nos forces pour essayer de faire le meilleur résultat possible.
Le match RDC-Guinée est prévu ce vendredi 6 septembre au stade de Martyrs à partir des 17h juste, heure de Kinshasa.
Actualité internationale.
Ce samedi 7 septembre, les Algériens se rendront aux urnes pour une élection présidentielle qui suscite un intérêt largement limité. Alors que le président sortant Abdelmadjid Tebboune, 78 ans, est en bonne position pour décrocher un second mandat, les électeurs se montrent peu enthousiastes, estimant que cette élection ne risque pas de modifier les statu quo. Les paysages politiques pour cette élection se limitent à deux candidats challengers, Abdelali Hassani Chérif, un islamiste de 57 ans, et Youssef Aouchiche, 41 ans, socialiste et ancien journaliste représentant un grand parti d'opposition de centre-gauche. Cependant, les trois candidats, y compris les présidents sortants, peinent à convaincre les citoyens.
L'invité.
Notre invité est Patrick Moulébois, chargé de l'éducation agricole au sein de la brigade de jeunes de l'Institut africain de leadership agricole ALI. Il nous parle de la sensibilisation des jeunes pour les pousser à opter pour l'enseignement agricole. Il s'entretient avec Esther Ndalafina.
Bonjour Patrick Moulébois. Au cours de cette journée d'échange, vous êtes intervenu sur l'éducation agricole. Qu'est-ce que cela signifie?
Oui, bonjour, merci beaucoup. En rapport avec l'éducation agricole, nous pouvons dire que c'est l'un des départements de la brigade des jeunes ALI. Nous avons 5 départements techniques, bien sûr. Nous avons la production végétale modernisée, nous avons la production animale et piscicole, nous avons la mécanisation agricole, nous avons la transformation à valeur ajoutée ainsi que l'éducation agricole dont il est question ici avec vous. L'éducation agricole a vu jour grâce à l'initiative de notre président Sanguine Kateranya et c'est grâce au programme STEP, STAR, DEM et les programmes. Donc, commencer avec qui très tôt. Commencer avec qui? Avec les plus jeunes. Pourquoi? C'est juste pour changer la mauvaise perception qu'a les jeunes vis-à-vis de l'agriculture. Donc, beaucoup de jeunes considèrent l'agriculture comme étant une corvée, comme une punition, comme un passe-temps, comme un métier de pauvres, ainsi de suite. Et plus loin, il y a aussi les écoles qui favorisent ce que les jeunes ont déjà dans leur tête en faisant quoi? C'est en punissant un élève en donnant là-haut. Donc, si un élève venait en retard, pour punir cet élève-là, on lui donne là-haut pour qu'il cultive. Et ça aussi, on est en train d'inculquer dans la tête de l'enfant que non, l'agriculture est une punition.
Qu'est-ce que vous faites pour changer cette mauvaise perception?
C'est d'abord intervenir dans les écoles. Comment? On entre d'abord en contact avec les inspecteurs pour d'abord leur demander la permission ou l'autorisation de passer dans les écoles. Pourquoi encore? C'est juste parce que leur rôle est de faire les suivis et évaluer aussi les interventions qui se font dans les milieux scolaires. Donc STEP ou l'éducation agricole intervient à trois niveaux. Nous avons d'abord le premier niveau, c'est au niveau du système éducatif. Là, l'éducation agricole aide à améliorer les curriculums scolaires. Comprenons par là que nous allons nous focaliser beaucoup plus sur la pratique et non la théorie. Dans les écoles techniques, il y a peu d'heures de la pratique et beaucoup d'heures de la théorie. Maintenant, nous sommes là pour valoriser les heures pratiques avec nos formations et aussi nos pratiques, surtout la pratique sur terrain.
Vous avez des champs d'expérimentation où vous amenez les élèves? Ce sont les écoles qui ont des champs d'expérimentation.
Faisons l'identification des écoles techniques organisant l'option agriculture. Donc, nous nous basons sur les potentialités qu'offrent les écoles. Donc, par exemple, lorsque nous nous présentons dans une école, nous voyons d'abord ce que l'école a en son sein, le nombre d'hectares de l'école et aussi le nombre d'hectares alloués à la pratique. Nous mettons aussi beaucoup plus l'accent sur l'élevage. Nous voyons si l'école a une ferme, si l'école a une unité de transformation, les matériels de la mécanisation, que ce soit la grande ou la petite mécanisation. Nous voyons aussi si l'école a une connexion Wi-Fi, un laboratoire d'informatique. C'est juste parce que dans nos interventions avec nos nouvelles technologies, il y a aussi une branche de l'agriculture digitale, donc l'agriculture numérique. Il y a certaines applications qui permettent d'identifier et proposer même les pistes de solutions des maladies. Et c'est pourquoi nous mettons encore beaucoup plus l'accent sur les laboratoires informatiques et aussi la connexion Wi-Fi. Et maintenant, dans la valeur ajoutée, mettons beaucoup plus l'accent sur l'unité de transformation. C'est juste pour valoriser aussi, parce que nous ne pouvons pas seulement nous baser sur la production et non sur la transformation. Nous connaissons très bien, lorsque nous transformons, il y a déjà une valeur ajoutée. Un exemple palpable, si vous avez les maïs, si vous voulez vendre les grains, ça ne sera pas au même prix que la farine.
Et lorsque vous arrivez dans les écoles où il n'y a pas tout ce que vous venez d'énumérer, tel que le Wi-Fi, qu'est-ce que vous faites alors?
Il y a les écoles qui en ont et d'autres écoles qui n'en ont pas. Maintenant, comment est notre politique? Nous commençons d'abord par les écoles qui ont déjà quelque chose, parce que nous, notre politique n'est pas de donner, mais nous sommes en train de former les élèves à l'idée de l'agribusiness. Donc, couper quand même la main qui est toujours tendue vers l'extérieur. Par exemple, nous avons déjà ciblé une école qui répond déjà aux critères dans lesquels nous avons déjà commencé à intervenir. Donc, les écoles qui ont été ciblées en première position constitueront des écoles pilotes. Donc, lorsque nous avons déjà commencé à intervenir là, une fois que nous avons impacté, d'autres écoles commenceront maintenant à venir là pour apprendre encore davantage. Donc, ces écoles-là seront pour nous les écoles pilotes.
Patrick Moulebois, je vous remercie.
Merci beaucoup, Maman Esther. Merci.
Patrick Moulebois, chargé de l'éducation agricole au sein de la brigade des jeunes de l'Institut africain de leadership agricole, s'entretenait avec Esther Ndalafina. Et c'est fini pour ce journal, mis en onde par Dieudonné Nyangasawa Nyangasa et Pierre Diassinois, sous l'œil vigilant de Pelekipe Lamondo et Élisée Tchukota Tchuvweta. Patience Ngalula Mbombo vous l'a présenté. Merci de votre sympathique attention.